With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et j'ai la chance aujourd'hui de présenter avec cet excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, merci encore de m'accueillir dans Poulain Raffut. Poulain Raffut, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un petit peu partout, dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou ailleurs. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour avec une douce petite musique classique liée à son surnom.
Ah, oh, comme c'est beau Arnaud. Oui, tu le sais, il y a des joueurs que tu bats quand t'es gamin et qui te font aimer ton sport par leur fulgurance et leur talent. Et dans les années 90, ça nous rajeunit pas, certes, mais à qui ne s'est pas levé de son canapé, son père à ses côtés, quand Philippe Saint-André décide de relancer de ses 22 face aux Blacks pour marquer ce que les spécialistes appellent l'essai du bout du monde. 29 secondes plus tard et 8 passes plus tard, c'est Jean-Luc Sadourny qui marque après une chevauchée épique et 9 joueurs qui croisent, qui débordent, qui passent après contact, bref, tout ce que je savais pas faire à l'époque. Et au milieu de cette relance épique, le petit Mozart, tu l'as dit, Yann Delegue, qui nous régale d'un assis-toi et donne, pétant les chevilles de son adversaire avant d'offrir la balle à Agui Akosseberry. Les maillots trop larges, le public des Blacks admiratif et consterné, et moi en transe au milieu de mon salon, prenant mon père dans les bras, on était champion du monde. Qui aurait pu croire que 7 ans plus tard, ce gosse picard de 14 ans jouerait aux côtés de ce fameux Yann Delegue lors d'un match des Barbarians à Mayol face aux Fidji, match certes perdu 17 à 15 si je ne m'abuse, mais avec des souvenirs plein la tête. Yann Delegue est de la trempe des mecs uniques par leur talent et leur vista. Il fait partie de ses numéros 10 épiques, de la trempe des La Maison, des Castagnettes, des Michalak et maintenant des Ntamack, Jalibert, voire Carbonel, et on va en parler avec lui. Qui de mieux qu'une ancienne gloire, excuse-moi de te vieillir bien sûr Yann, mais qui de mieux qu'une ancienne gloire pour venir nous parler de la renaissance de l'équipe de France et de ce poste si particulier qu'est celui d'ouvreur. Yann Delegue, c'est 3 titres de champion de France, glanés avec Toulon et Toulouse, et une Coupe d'Europe, c'est 20 sélections avec l'équipe de France, c'est Toulon, c'est Toulouse et c'est Castres. Yann Delegue, c'est le tournoi des Six Stations qu'il a créé en 2013, j'ai eu la chance d'ailleurs de faire partie de la première édition. Et il faut être complètement cintré, il faut le dire, pour imaginer 6 équipes mêlant anciens joueurs pro et amateurs se rentrer dans la tronche sous la neige à grands coups d'apéro et de fraternité. Il faut aussi être tout aussi cintré pour créer le water rugby et jouer à toucher sur une barge sur la Garonne à Toulouse. Eh bien oui, Yann Delegue l'a fait. C'est donc l'occasion de parler avec lui aussi du monde de l'événementiel dans un contexte très particulier et très compliqué pour le monde du sport, vous le savez bien. Yann Delegue, c'est aussi le Rugby French Flair, une association d'anciens joueurs qui viennent en aide aux enfants défavorisés à travers le monde. Bref, un type généreux, créatif, un talent qui inspire et qu'on est heureux de recevoir dans Poulain Raffut. Salut Yann.
Salut, quel portrait élogieux, merci mille fois.
C'est cadeau, ça c'est ma plume, autant j'avais pas le talent sur le terrain comme toi, mais j'ai un petit talent, tu vois, d'écrivain, ouais. Donc ça me fait plaisir de te recevoir. Et c'est vrai que tu m'as pas mal sollicité ces dernières années pour venir sur le tournoi des Six Stations et aussi pour participer au Water Rugby, je n'ai pas pu venir, mais je suis heureux de te recevoir. Et la première question, c'est ouais, tu as créé ce tournoi des Six Stations qui n'existe plus en tout cas sur la neige, qui a aussi été créé sur différentes plages du sud de la France et aussi à Biarritz. C'est un événement festif. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu la deuxième édition qui a eu lieu du Water Rugby à Toulouse sur la Garonne en septembre dernier. Est-ce qu'on aura la chance en septembre de revoir le Water Rugby à Toulouse, comme je l'ai dit, avec un contexte sanitaire pesant et qui pèse justement sur les événements?
Mais je l'espère, on peut jurer de rien aujourd'hui parce que cette crise sanitaire fait qu'on ne sait pas quand elle s'arrêtera et on ne sait pas comment on sera mangé le lendemain. Mais en tous les cas, ouais, normalement en septembre aura lieu le week-end du 10 septembre, le Water Rugby à Toulouse, le Water Rugby Sud de France. Donc voilà, je reste très optimiste hein, parce que septembre, j'espère qu'on sera sorti de toute cette galère. Maintenant, je peux jurer de rien. Alors effectivement, les temps sont quand même difficiles parce que ben, pour faire ces événements-là, il faut des partenaires. Les partenaires, suivant les secteurs d'activité, sont en difficulté. Donc, tous ne peuvent pas reconduire. Mais enfin, voilà, je continue à me remonter les manches, être optimiste. Je sais aussi que je suis soutenu ben, par tous ces joueurs qui composent justement, finalement, des équipes du Water Rugby qui sont toujours enchantés. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ces moments-là. Donc, c'est cool pour eux. Et c'est vrai qu'ils sont solidaires à cet événement-là. Donc voilà, je me bagarre en ce moment pour reconstruire mes dossiers et aller voir des nouveaux partenaires.
Petite question, comment on arrive à créer un rugby sur la neige ? Je suis, comme je dis, complètement cintré parce que c'est moi, je l'ai fait. Quand tu prends Betsen dans la tronche, qui est à 45 ou 48 piges, qui a futé comme une lame, et quand tu prends des amateurs aussi qui n'ont qu'une envie, c'est de te casser la bouche sur la neige. Je rappelle, c'était un match tous les soirs dans une station différente. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de créer cet événement ?
Alors, je vais peut-être casser le mythe, mais en fait, c'est en braille hein, qu'on a les idées de fou. C'est tout simplement en braille. Sincèrement, on fait une soirée, on se dit pourquoi on n'irait pas jouer sous la neige, on le fait avec deux, trois copains, et puis finalement, le truc qui prend, et puis bon, après, bien sûr, il faut travailler, l'organiser. Et ça a été pareil sur l'eau. On était justement en tournée avec Ruby French Flair, et on s'est dit, on se voit une fois par an, on serait bien de faire ça deux fois par an, il faudrait trouver un truc à la plage ou sur l'été, toi, sur la période de l'été. Et puis, le beach rugby, tout le monde le fait, on ne va pas refaire un truc que les autres font. Et donc, on a eu cette idée de barge, justement, de faire le rugby sur la barge. Et puis voilà, techniquement, après, on a bien bossé pour pouvoir le construire, le mettre à niveau. Puis aujourd'hui, ça fonctionne super bien, parce que c'est spectaculaire. Puis c'est une grande fête de rugby et de tous les rugby. Parce que c'est vrai qu'on parle des internationaux qui viennent sur cet événement-là, qui est un peu le point d'orgue de l'événement, mais c'est surtout des féminines qui viennent jouer, des joueurs amateurs, des étudiants, une initiation pour les enfants encadrée par les internationaux. C'est le monde du rugby, c'est quelque chose de gratuit pour les spectateurs. Donc vraiment, c'est quelque chose pour moi de très important de dire que c'est la fête de tous les rugby et pas juste des professionnels, quoi.
Yann, justement, tu as parlé de cette association, hein, Rugby French Flair, pardon. C'est une association hein, qui œuvre à travers le monde pour les enfants défavorisés. Vous avez fait déjà, je crois, la Colombie, Madagascar, Cuba, Mayotte, enfin un paquet de pays. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet engagement qui est très différent de l'organisation de ces différents événements ? Raconte-nous un peu, parce que c'est à travers le rugby que vous venez en aide à des enfants qui sont dans le besoin.
Ouais. En fait, déjà, je vais te donner ma définition du rugby à moi. Parce que ça part tout par-delà. Moi, le rugby, c'est d'abord des échanges, des rencontres, des copains. Et en fait, j'ai vécu le rugby, et je vis encore le rugby, à travers ces émotions-là. Les titres sont sur les étagères, mais j'ai envie de te dire, bien sûr que c'est des bons souvenirs, mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je retiens du rugby. Et donc, l'idée, par mon événement Water Rugby, par l'événement 6 stations avant, et avec cette association, c'est de tirer le fil de cette amitié du rugby, cette convivialité du rugby. Et on a pris du rugby parce qu'on s'est régalé pendant des années sur les terrains. Et aujourd'hui, on est plusieurs mecs, 50, 100 mecs, anciens rugbyman, et on veut redonner ce que nous a donné le rugby. Et on a choisi de le faire via cette association Rugby French Flair. On a monté cette asso il y a 10 ans. On a beaucoup évolué depuis 10 ans, puisqu'au début, on allait faire un voyage caritatif dans un pays, tu les as un peu cités. On allait aider les enfants, leur donner un peu d'argent, leur donner un peu des équipements. Et puis, on a commencé à se structurer beaucoup plus. Et on s'est rendu compte que si on s'éparpillait, aller à droite à gauche, ben finalement, c'était sympa ce qu'on faisait, mais c'était un one shot et derrière, il n'y avait rien qui était vraiment construit. Donc, on s'est dit, on va s'arrêter sur trois pays qui nous ont paru, en tous les cas, les pays et les associations qui étaient le plus à même de poursuivre ce qu'on mettait en place avec eux. Donc, maintenant, c'est le Sénégal, c'est Madagascar et c'est la Colombie. Et là, on fait un voyage annuel dans un des trois pays chaque année. On va effectivement, à travers la pratique du rugby, qui est quelque chose de ludique avec des belles valeurs, mais essayer de capter le plus d'enfants possible dans les associations locales. On en choisit 6 ou 7 par pays. Et lors de ces interventions, on met en place des choses qui vont rester toute l'année, notamment des éducateurs en place qui vont venir chaque semaine faire ça avec les enfants. On leur donne de l'argent pour pouvoir contribuer à les faire manger, à ce qu'ils aient la santé, l'éducation. Et on aide les assos locales comme ça par des fonds de dotation, donc de l'argent, mais aussi par du matériel. Et on a des partenaires pour ça. Et ce qui est génial aussi, c'est que chaque joueur ne vient pas pour prendre. Chaque joueur vient pour donner. Donc, les joueurs payent une partie de leur voyage. Ils doivent chercher des partenaires pour l'association. Et tout le monde est bénévole. Donc, ça, c'est vraiment le côté très sympa. Et c'est ce qui me touche dans cet asso, moi. C'est qu'on va aider les gamins. Mais on le fait vraiment avec cet intérêt de poursuivre les assos qu'on aide le plus longtemps possible avec un vrai feedback. On sait exactement l'argent, où va l'argent et ce qu'il en est fait. Chacun a son projet. C'est dans une association un dispensaire. Dans une autre, c'est créer des classes d'école. Pardon. Dans une autre, c'est créer des sanitaires, etc. Et suivant les projets, là, tu vois, j'ai appris il y a 2 jours qu'il y a tout un village de 600 gamins, enfin de 600 personnes dans le village, qui ont l'eau potable depuis une semaine grâce au fonds de dotation qu'on a pu leur donner pendant les fêtes de Noël. Donc,
génial.
C'est des trucs comme ça qui marquent, toi. Et là, c'est vrai qu'on essaie de faire résonner un petit peu notre action en ce moment sur les réseaux sociaux, en faisant une petite vidéo qui va toucher les gens. Et on fait un petit appel aux dons, parce que c'est vrai que, ben, malgré tout, le nerf de la guerre dans ces associations-là, c'est d'avoir de l'argent pour leur donner.
Il y a beaucoup de sportifs et beaucoup de rugbyman, et même anciens et même actuels, hein, qui s'impliquent dans les associations. Donc, j'imagine que si vous êtes à Madagascar, tu dois être avec Jeff Tordo, qui lui a une association depuis 25-30 ans et qui œuvre là-bas justement pour l'intégration notamment des femmes et des jeunes femmes. On sait qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes à 13-14 ans qui tombent enceintes. Et il a réussi, grâce au rugby, grâce aux femmes qui s'impliquent dans le rugby, à retarder justement ces femmes qui tombent enceintes. Et ça arrive à 18, 19, 20 ans, donc il retarde. Ça permet d'éduquer. Donc, on imagine que tu es aussi en relation avec Jeff, avec qui tu as pu jouer aussi à Toulon.
Ouais. Jeff fait partie des associations qu'on aide sur le territoire de Madagascar, effectivement, et tu as très bien expliqué ce qu'il fait. Voilà, ça fait partie de ces assos-là, et il a une très belle asso. Et si vous avez l'occasion d'aller sur le site internet de l'association Rugby French Flair, vous trouverez toutes les vidéos de tous les pays qu'on a fait, et avec des moments d'échange avec les enfants qui sont super intéressants.
Pachamama, d'ailleurs, c'est l'asso de Jeff. Ouais, comment aujourd'hui l'association vit ? Donc, comme tu l'as dit, c'est par les dons, et quels sont les futurs projets, tu l'as dit, c'est trois pays. Vous avez ciblé sur trois pays. Et pourquoi c'est trois pays ?
Ben, c'est trois pays parce que c'est là où on a senti que les associations qu'on avait aidées nous rendaient un bon feedback. Donc, on savait exactement ce qui était fait de l'argent. On a une proximité avec les dirigeants. On a des gens en local là-bas de confiance. Donc, on sait exactement ce qu'ils font, où ça en est. Et c'est bien pour nous parce qu'on sait exactement où va l'argent, à quoi il est attribué. Et puis, c'est bien pour nos partenaires qui nous aident, parce qu'on leur fait des newsletters en leur disant « Mais voilà, vous avez donné ça, mais avec ça, on a fait ça. » Donc, c'est important pour nous, parce que dans les associations, le point noir de certaines associations de temps en temps, c'est qu'il y a justement cette confusion et cette part d'ombre de ne pas savoir exactement, quand on donne 100, où vont les 100, quoi. Toi et aujourd'hui, nous, on est à cheval sur ça pour faire comprendre aux gens que ben, nous, on sait exactement où ça va et ça va pour les gamins, quoi.
Alors, juste une dernière chose avant de passer au rugby. Moi, je suis parrain de l'association Oval Citoyen et donc je suis en charge des partenariats. Est-ce que, comme moi je le fais avec les différentes entreprises que je rencontre, tu as la possibilité de le faire sur la politique RSE qui se développe énormément dans les boîtes aujourd'hui? Tu passes pas aussi par la politique RSE? C'est pour mettre un peu en avant, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui écoutent l'émission. Donc, est-ce que ça correspond aussi à la politique RSE des entreprises et que des partenariats peuvent être créés dans ce sens?
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre association, toi, elle est en train de se développer. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on s'appuyait sur des petits porteurs. Donc, c'était notre réseau de connaissances, l'entrepreneur du coin, le copain qui filait 1000 balles, qui filait 10 000, qui filait allez, jusqu'à 20 000, 25 000, maxi. Aujourd'hui, on est en train de se structurer. Moi, je m'investis beaucoup plus dans cette assure depuis quelques mois pour justement commencer à monter les présentations, pour aller chercher des plus gros partenaires, des grosses sociétés, notamment celles qui sont proches du rugby, mais pas que, pour essayer effectivement dans un plan RSE d'avoir un accompagnement sur du long terme avec ces boîtes-là, en leur expliquant pourquoi, ce qu'on fait exactement, étant transparent surtout. Et effectivement, la campagne de communication qu'on a commencé à faire cette semaine, c'est aussi déjà pour se faire connaître. Et dans un deuxième temps, c'est d'aller démarcher ces sociétés sur leur plan RSE, effectivement, avec une vraie construction, parce que ce qu'on a derrière la tête, c'est de choisir des associations donc locales et de monter avec eux. On n'a pas encore déterminé le nom, on appelle ça aujourd'hui Académie du rugby, mais l'idée, c'est de monter une structure locale gérée par les associations là-bas, où il y aurait justement une école, un moment pour faire du rugby, quelque chose pour la santé, une formation professionnelle, parce que dans tous les échanges qu'on a avec les associations, que ce soit celle de Jeff ou d'autres, il y a Village Pilote au Sénégal, il y en a beaucoup d'autres, ça tend justement à cet accompagnement global des enfants sur la santé, la nutrition, leur faire du rugby, du sport bien évidemment, et un accompagnement professionnel pour créer un vrai métier.
Et une infime partie aussi pour pouvoir payer l'apéro aussi à Émile Ntama qui est quand même qui a aussi besoin d'être motivé au-delà d'être sur le terrain avec les enfants.
Alors exactement, mais ça nous coûte beaucoup moins cher payer l'apéro d'Émile Ntama que de Francis Ntama avec son frère. Parce que là, par contre,
ah oui, Francis, pardon, mais oui, pardon, mais oui. En plus, j'avais Francis en tête et je me suis planté avec Émile, qui est quand même beaucoup plus cadré que son frangin. Bref, je donne la parole. Vas-y, Arnaud, excuse-moi.
Francis, si tu nous entends, c'est avec grand plaisir hein, qu'on t'accueillera dans Poulain Raffut pour répondre à Yann Delegue. Oui, alors Yann, évidemment, on parle beaucoup des valeurs à travers cette association. Moi, je voudrais recentrer un petit peu par rapport au rugby. Au mois de novembre, tu avais fait une sortie qui avait quand même marqué les esprits et que beaucoup de gens partageaient. Alors, peut-être des gens de notre génération, mais tu avais déclaré à l'époque, dans les colonnes de Midi Olympique, l'état d'esprit des joueurs est de plus en plus pourri. De tous ces petits gestes, alors tu parlais des petites tapes sur la tête, des petits mots qui t'étaient dit. Alors, c'est vrai que c'est exacerbé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de public dans les stades et on entend à peu près tout. Voilà, tu disais que ça ne caractérisait pas les valeurs de ce sport et on vient d'en parler, de ces valeurs. Comment tu expliques cette évolution? Est-ce que aujourd'hui tu te retrouves dans les comportements qu'on peut apercevoir sur et en dehors du terrain?
Alors déjà, il y a un truc super important, c'est que j'ai fait cette petite sortie effectivement parce que ça m'a fatigué sur un week-end, mais c'était assez récurrent, mais de voir ces petites tapes, ce chambrage qui ne correspond pas à mes valeurs du rugby, les miennes en tous les cas, c'était vraiment un message très personnel, hein, mais certainement partagé par pas mal.
Par beaucoup.
Voilà, et si tu veux, exactement, je suis un peu sorti de ma réserve pour dire, voilà, ce truc-là, ça commence à m'emmerder parce que c'est pas rugby, c'est pas mon rugby, voilà. Mais ce qui est super, c'est que ça a fait un peu de vagues, finalement, j'étais le premier surpris, et derrière, il y a eu des sanctions, donc tu vois, les arbitres ont commencé à sanctionner, et du coup, de ce fait, on le voit beaucoup moins sur les terrains aujourd'hui, et tant mieux, ça assainit tout. Alors, même si, effectivement, on entend encore des choses des coachs et puis dans les tribunes un petit peu, mais sur le terrain, en tous les cas, il y a plus de respect entre joueurs, je trouve. Et je trouve ça plutôt pas mal parce que ça assainit le jeu. Et puis, voilà. Et puis c'est tellement facile aujourd'hui dans un rugby où, finalement, tu ne peux pas te faire justice par la violence. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux d'avoir ce rapport de pouvoir brancher les mecs sans que l'autre puisse vraiment répondre. Enfin, avant, à mon époque, sans faire le vieux guerrier, loin de là, quand tu branchais, il fallait les avoir un peu accrochés parce que derrière, quand même, tu pouvais morfler. mais ouais, aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui, tu peux
dire n'importe qui. C'est d'ailleurs Thibaut Lassalle qui avait pris la parole et qui avait dit aujourd'hui, tu peux mettre n'importe quel pépin sur un milieu de terrain et voilà, il n'y a plus besoin d'avoir vulgairement la paire de couilles, en gros, pour pouvoir répondre par rapport aux mots. Quoi.
Mais tu n'es pas le seul, Yann. J'ai souvenir, pas plus tard que dimanche dernier, Marc Livremont en direct sur le match de 21h, oui, donc Stade Français-Casse, où il disait c'est insupportable ces mecs qui viennent hurler parce qu'on a gagné une mêlée et qui viennent presque provoquer l'adversaire. Et c'est vrai que ça a été énormément partagé. Est-ce que toi, Raph, on sait que certains comportements t'agacent, je sais que tu t'agaces assez régulièrement de tous les refus qu'on essuie, notamment par les attachés de presse, parce que les joueurs se réfugient derrière les attachés de presse. Est-ce que tu as vu, toi, une évolution, justement, par rapport aussi au milieu que tu as connu et que tu as fréquenté un petit peu, même si tu as joué les finales dans les tribunes, effectivement?
Alors, merci Arnaud, c'est que je ne m'attendais pas. Tu vois, ça c'est cadeau, c'est glissé comme ça, c'est cadeau, comment tu vas rebondir? Déjà, premièrement, je pense qu'il est important, c'est pas d'être un vieux guerrier et d'être un vieux con que de prendre la parole, parce que je pense que la nouvelle génération a aussi besoin d'un cadre, et que qui de mieux en fait que des mecs comme Yann Delegue, comme Marc Livremont, qui ont été internationaux, qui ont quand même des titres derrière eux et qui ont une certaine expérience du haut niveau. On a besoin de garde-fous, on a besoin d'avoir des pairs, on a besoin d'avoir des référents en qui puissent aussi nous cadrer dans nos comportements. Moi, je l'ai eu à 20 ans, j'avais emplâtré un mec de 35 ans, j'ai pas du tout fait mal, et il m'a regardé en disant « qu'est-ce que tu branles ?» Et je l'ai regardé, j'ai fait ouais, désolé, puis on a repris le jeu, puis à la fin il m'a mis deux nuquettes, et puis voilà, tu tires des leçons de ça aussi. Je pense que les anciens sont là pour ça. Pour répondre à ta question, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des joueurs, mais que ce soit presque dans tous les clubs, et les joueurs ne se réfugient pas derrière les attachés de presse. Les joueurs sont d'accord pour venir ici pour parler un peu de leurs expériences, de leur vie d'homme, de leur vie de rugbyman, de leurs échecs et tout ce qu'on aime partager. Le problème derrière, oui, c'est que tu as les attachés de presse qui aujourd'hui sont un petit peu non pas les garde-fous, mais qui cloisonnent. Or, moi, ma génération, et même je pense que celle de Yann, se construit avec des référents. Il y a Bastia qui est décédé aujourd'hui. Je suis persuadé que voilà, il y a toute une génération qui est touchée parce que ces mecs-là racontaient des histoires à travers les journaux, à travers le Midi Olympique, à travers tous les journaux, et qu'aujourd'hui on cloisonne. Donc, à quoi on se réfère quand on a 14, 15 ans, 20 ans, si on n'a pas la possibilité d'avoir accès aux joueurs actuels qui nous racontent un peu autre chose que d'ailleurs ce qu'on voit sur le terrain. On a besoin d'avoir des histoires, on a besoin de s'inspirer du rugby, ça nous fait devenir des hommes, ça nous fait nous inspirer de, ouais, d'un Yann Delegue. Moi, je le dis à 14 ans et je le répète, à 14 plus, comme je disais dans le portrait, voir l'action en fait de cette relance de Philippe Saint-André, ça t'inspire. Et puis derrière, tu prends le journal et tu lis les colonnes et tu as une histoire en fait derrière. Moi, ce qui m'emmerde aujourd'hui dans Poulain Raffut, c'est de devoir galérer jusqu'au dernier moment pour avoir un invité. Les anciens du tac au tac qui répondent, parce qu'en plus, c'est bonnard, c'est bon enfant, on a une demi-heure d'interview. Donc, c'est ça qui est un petit peu gonflant. C'est maintenant de devoir passer par les clubs qui donnent l'autorisation. Un exemple, Thomas Ramos était chaud pour venir, il a fallu passer par le club qui nous ont refusé, alors que lui était prêt à venir parler un petit peu de son expérience internationale, de la Pro D, de tout ça. Donc, oui, ça fait chier parce qu'on a besoin d'avoir ce rapport avec les joueurs actuels, on a besoin d'avoir ces histoires intéressantes et inspirantes et qu'on en a un peu ras-le-bol de voir des trucs en 140 caractères, on a besoin d'être inspiré par un peu autre chose. Donc oui, c'est un peu un coup de gueule et je pense que les journalistes aujourd'hui ont aussi un peu, on a un peu ras-le-bol de ne pas avoir accès à, voilà, aux joueurs pour pouvoir raconter leur rugby, qu'ils puissent nous raconter leur rugby, quoi.
Yann, tu partages un peu justement ce côté, à ton époque, j'imagine que la proximité avec les journalistes était réelle, il y avait quand même un échange, il y avait alors de belles histoires qui étaient racontées quand même dans les journaux, on a l'impression qu'on s'éloigne un peu de ça, tu partages un peu le coup de gueule de Raph ?
Ouais, bien sûr, alors moi j'ai même connu l'époque des dinosaures où si tu veux, les journalistes étaient dans le même hôtel que nous, l'équipe de France notamment, et limite on buvait une bière avec eux le soir, on leur disait les trucs en off, qu'on avait sur le cœur des fois, qui respectaient, ça sortait jamais, et puis quand il y avait interview. Bon, aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui n'existe plus, déjà parce qu'il y a un peu la course à l'échalote par rapport aux médias. Journalistes eux-mêmes, je pense. Et quand je dis aux journalistes, il y a les journalistes, mais il y a aussi tous ceux qui se disent journalistes, qui ne sont pas forcément journalistes, avec notamment les réseaux sociaux et tout ça, ça agrandit le spectre, et ce n'est pas que des journalistes compétents. Mais après, Raph a raison, de l'autre côté aussi, les joueurs font de plus en plus attention, les clubs, plus que les joueurs, mais font encore plus attention par rapport à l'image, par rapport à tout ça. Donc, il faut arriver à un juste milieu, il ne faut pas déborder, parce qu'effectivement, cette liberté d'expression, elle est quand même importante. C'est des grands garçons, les joueurs, ils ne vont pas dire non plus n'importe quoi. Mais après, effectivement, je peux comprendre aussi que les clubs veuillent maîtriser, ou les agents, je ne sais pas, parce que des fois, c'est les agents aussi, suivant qui va les interviewer. Et effectivement, si ce n'est pas des journalistes en qui on peut avoir confiance, il peut peut-être y avoir un danger à ce niveau-là. Mais Raph, qui est un ancien joueur, si tu veux, ce n'est pas lui qui représente le danger.
déjà sur le terrain, et maintenant en dehors, donc bon, c'est plus grand danger.
Bon, allez, messieurs, je vous propose de parler un peu de sport. Il y a le tournoi Destination qui démarre ce week-end. On dit, Yann, que l'équipe de France est la grande favorite de cette édition, malgré trois déplacements hors du pays. Est-ce que c'est ton avis d'abord ? Est-ce que cette équipe de France est favorite par rapport à ce qu'elle a pu montrer en 2020 ? Est-ce que le fait de jouer trois matchs à l'extérieur, c'est un handicap ? Sachant qu'évidemment, il n'y aura pas de public dans les tribunes.
Ouais, alors d'abord, cette équipe de France, sincèrement, moi, elle me régale. Parce que je pousse des coups de gueule quand il faut en pousser, mais je partage aussi des choses bonnes des fois. Je me dis quand je me régale, sincèrement, il y a des fois vraiment. Et là, cette équipe de France me régale, sincèrement, sur l'état d'esprit, sur la façon de jouer, même si j'aimerais qu'elle joue un peu plus, mais on est dans l'ère de ce jeu-là, très, très calculé, et je le conçois et je le comprends. Et c'est une analytique performante quand même, toi, très précise, mais assez performante. Et en tous les cas, tout ce qu'ils font, ils le font avec du sens. Donc, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas assez jouer à la main, même si j'aime ce jeu, moi, à la main. Donc, forcément, j'ai toujours envie de plus. Mais voilà. Mais il y a des joueurs, c'est des joueurs qui jouent juste, qui ont un bon état d'esprit. Sincèrement, moi, c'était cette équipe de France, ouais. Et bien sûr qu'elle est favorite. Bien sûr qu'elle est favorite, puisque ça fait un an, quand même, aujourd'hui, qu'elle joue bien, qu'elle gagne. Alors, elle ne gagne pas tous ses matchs, mais enfin, bon, elle gagne quand même assez souvent. Et en tous les cas, en Europe, ouais, on peut considérer qu'elle a des atouts pour gagner le tournoi, bien entendu. Et par contre, c'est un statut, tu mets une veste différente. Hein. C'est un statut là où, tu vois, tu as une veste qui brille. Quoi. Donc,
tout le monde t'attend avec le fusil. Quoi.
Ah bah ouais. Tu as la veste qui brille en soirée, tu es sur la piste de danse, là, tu es au milieu. Tu vois, normalement, c'est toi qui donnes l'exemple. Quoi.
Et Dieu sait que tu étais bon sur la piste de danse et que tu dois l'être encore. Mais tu as déclaré dans le... T'as déclaré dans le middle d'ailleurs que tu pensais pas que Fabien, justement, Galtier, irait aussi vite. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu Le fond de ta pensée, c'est vrai que Fabien, on connaît son esprit très, comme tu l'as dit, analytique. Il a parlé très très souvent justement de ce très très haut niveau. On sait qu'il est très compétent sur ce domaine-là. Il a su s'entourer avec son staff. Et tu ne pensais pas justement toi qu'il irait aussi vite, aussi haut et aussi fort, parce qu'ils ont quand même. Après, on sortait quand même de 10 années de on a bouffé la tarte de merde quand même.
Ouais, bien sûr, ça a été difficile pendant 10 ans. Et effectivement, de rechanger les disquettes comme ça des joueurs. Alors, bien sûr qu'il a été aidé. Il y a une belle génération de joueurs qui est arrivée, mais pas que. C'est-à-dire que toi, il a. Quand je dis il, je pense à son staff et Raph notamment, qui est avec lui aussi. Ils ont su guider les principes élémentaires. Et le principe élémentaire qu'on avait perdu en équipe de France, c'est pourquoi tu es là, pourquoi tu joues au rugby et qu'est-ce que tu veux faire passer, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie de rugbyman. Et toi, par ces échanges-là au début, ils ont signé des contrats moraux avec les joueurs. Et ça, c'était peut-être la base. Et effectivement, ils sont revenus à ça. Alors qu'on aurait pu parler de jeu, de on n'est pas bon en mêlée, on n'est pas bon en touche, l'engagement, machin. Mais là, on est allé sur le psychologique des joueurs. Pourquoi tu es là et c'est quoi ton histoire du rugby? Ils ont voulu connaître l'histoire de chaque joueur qui était potentiellement en équipe de France. Donc, dans la relation humaine, ça a été un facteur très important qui met en confiance et qui dessine ce que tu veux faire, en tous les cas. Où tu étais, où tu veux aller. Donc ça, pour moi, c'est déjà super important. Et ça les a mis dans des conditions psychiques plutôt favorables. Après, effectivement, il s'est entouré. Alors, il avait un rugby en tête qui était très précis, très analytique. Il s'est entouré d'adjoints performants, à la fois sur le physique, à la fois sur la défense, à la fois sur les différents systèmes de jeu, sur la conquête ou le jeu et tout ça. Donc, il a mis des gens plutôt performants là-dedans. Et surtout, il a un discours qui est super clair envers ses joueurs. Et ça, c'est bien. Et après, la volonté qu'il a de vouloir mettre des joueurs et de ne pas trop les bouger en leur donnant la confiance. Alors, effectivement, c'est toujours plus facile quand tu as des résultats, et c'est le cas aujourd'hui. On va voir quand il va y avoir des accroches. Mais en tous les cas, moi, je trouve que c'est quelque chose d'important, surtout à certains postes, de garder quand même une continuité, au moins dans l'arrêt de ton équipe, toi, dans
la 2, colonne 8, vertébrale.
9, 10, 15. Ouais, c'est quand même important d'avoir une stabilité. Pour avoir joué numéro 10, je sais qu'il y a un facteur qui est très important qu'on a souvent délaissé dans l'équipe de France. C'est dans les poches charnières 9-10, tu as vraiment ce besoin de sentir la confiance de tes coachs et de tes partenaires. Parce que tu es toujours bien meilleur quand tu as cet environnement qui est relaxant, de savoir que tes coachs, les yeux fermés, ils te font confiance, tes partenaires, c'est toi qui as les clés du jeu. Et ça vraiment, c'est super important. Et ça, ils arrivent à le donner. Alors, ils l'ont donné à Romain Tamac et à Dupont. Demain, ce sera au petit Jalibert, parce que Romain n'est pas là et que Jalibert fait des super matchs avec son club aussi et qu'il mérite d'être là. Et donc, ça, c'est fondamental. Et ça permet aux joueurs aussi de se libérer dans leur jeu. Et ça, je trouve très bien. Et il y a la continuité de ça. Parce que ces joueurs-là, ils vont peut-être pas faire que des bons matchs. Mais s'ils sont repris et remis, eh bien, ils vont se dire, on me fait confiance, quoi. Et pour moi, ça, c'est assez déterminant.
Yann, tu parles justement de ce... Pardon, vas-y, Raph.
Non, juste pour revenir, mais vraiment une petite parenthèse hein, sur les 10 dernières années. On en a parlé avec Johan Huger la semaine dernière, qui nous expliquait justement qu'on prenait, c'était la politique de l'homme en forme. Donc, on avait eu 15 charnières, on avait eu des mecs qui étaient à l'aile, qui passaient à l'arrière, on a eu tous les postes, on a eu 100 ou 115 joueurs utilisés. Et maintenant, il y en a presque certains, alors ça, c'est la cour des miracles sur les réseaux sociaux, mais qui se plaignent presque aussi que quelle troisième ligne on pourrait mettre, est-ce qu'on met Olivon? Mais Olivon, aujourd'hui, il est capitaine, il est installé en tant que capitaine. Et on a besoin, comme tu le dis, Yann, de cette régularité qui a un peu fait défaut à cette équipe de France sur les 10 dernières années. Donc, à la parenthèse fermée, c'était les choix, en tout cas, des sélectionneurs précédents. Aujourd'hui, il y a une continuité, il y a une régularité. C'est ce qui est plutôt agréable à voir. Et on peut aujourd'hui s'identifier aussi à une charnière qui est installée, même si, comme tu l'as dit, Ntamack ne jouera pas les prochains matchs, ce sera le jeune Jalibert. Voilà.
Alors justement, Yann, on parle effectivement de cette continuité, de l'installation de cette colonne vertébrale. Et là, patatrac, on a quand même un nombre important de blessés. C'est la première fois que Fabien Galthié va être confronté hein, à ce problème-là. En tout cas, depuis qu'il est en poste avec l'équipe de France, évidemment, il a connu ça par le passé dans les différents clubs qu'il a traversé. Est-ce que pour toi, on sait que Romain Tamac était le 10, entre guillemets, dans le système que Fabien voulait mettre en place. Est-ce que ça peut influencer le rendement de l'équipe? Et est-ce que Mathieu Jalibert a les épaules? On voit qu'il brille en club. Mais pour l'instant, il lui manque encore ce petit match référence, peut-être chez les Bleus.
Ouais, alors, ouais, je mets un petit bémol là-dessus, parce que le match contre l'Angleterre qu'il a fait dernièrement avec l'équipe de France, il a quand même été plutôt brillant. Hein. Il a réussi à rester dans le cadre de jeu, parce que c'est un petit peu le problème qu'on peut lui trouver, c'est-à-dire de respecter un cadre bien précis, parce que c'est un joueur instinctif, très attaquant, et il faut qu'il rentre dans ce cadre d'équipe de France. Je trouve que le match contre l'Italie, il est rentré dans ce cadre, mais en oubliant peut-être un peu ses fulgurances personnelles. Il s'est vraiment attaché à être très collectif dans la tactique à adopter pour l'équipe de France, ce qui était une bonne chose. Contre l'Angleterre, il est resté dans ce cadre-là, tout en amenant ses fulgurances personnelles, parce que c'est aussi pour ça qu'on l'aime, ce joueur. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres. C'est qu'individuellement, il est capable de faire des trucs incroyables. Donc toi, sur l'Angleterre, je pense que c'est un petit match référence pour lui quand même. Alors après, effectivement, il faut le voir sur la continuité. Là, c'est plutôt bien qu'on commence par l'Italie, parce que ça va pouvoir lui permettre de changer de disquette aussi, club et équipe de France. Parce qu'il faut savoir quand même que quand on voit les matchs, hein, Bordeaux a un rugby qui est un rugby fait pour jouer autour de lui, quelque part. Donc, c'est son équipe qui met son système de jeu en fonction de lui qui est l'élément fédérateur du truc. En équipe de France, c'est différent. Il doit rentrer, lui, et être garant, en plus, du système collectif de l'équipe de France. Donc, c'est un autre statut qui est plus difficile.
Oui, parce que tu dois gérer le lâcher-prise sur le talent, justement, hein, que tu avais, et puis la maîtrise aussi d'un jeu qui, de toute façon, t'est imposé par les 14 autres et par le sélectionneur.
Tu commences à jouer dans un jeu calculé et plus instinctif, mais malgré tout, il faut garder ton instinct parce qu'il y a des coups, à un moment donné, à jouer et il faudra bien les jouer. Donc, c'est cette dualité qui est importante, mais qui est géniale et qu'il a très bien réussi contre l'Angleterre au mois de novembre. Donc, on va voir pour le début du tournoi. Moi, j'ai plutôt confiance en lui parce qu'en plus, il est en pleine bourre, il est bien dans sa tête. J'imagine que l'équipe de France, le staff, l'a mis dans des circonstances justement psychologiques plutôt positives en disant « c'est toi qui as les clés, vas-y, on est avec toi ». Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt optimiste et s'il fait un très bon tournoi, même si Romain part en favori, Romain Tabac, d'avoir deux choix, voire plus, parce qu'il y en a, ça pousse au portillon derrière aussi.
On va en parler, Yann.
C'est plutôt pas mal parce que ça crée, ça crée de la motivation pour tous et c'est plutôt bien, ça fait progresser.
Ouais, et puis on a vécu une période de vache maigre une fois de plus avec des très très bons joueurs, mais qui étaient très fatigués pendant des années. Aujourd'hui, voilà, c'est un problème de riche qu'on a, donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir se dire que un Camicha qui est blessé, derrière tu le remplaces par un Marchand qui est tout aussi bon, différent certes dans d'autres domaines, mais cette troisième ligne aussi, tu sais plus qui choisir tellement les mecs sont aussi bons. Donc moi je voulais juste revenir avant de parler justement de ton club de cœur, je pense Toulon et du petit Carbonel, c'est l'épisode justement du Mora. On vient d'en discuter il y a 5 minutes sur justement je dirais la nicroche, en tout cas le geste qu'il avait eu envers Julien Dumora lors d'une rencontre UBB et Castres. Est-ce que tu crois que cet épisode qui a été vivement critiqué, hein, lui a servi de leçon et lui a permis de travailler un peu sur l'humilité, ou est-ce que c'était un... Après, c'est excusable, hein, c'est le genre de genre d'attitude qui
avec une jeunesse
une fois de plus. Ouais. Puis après, c'est amplifié, même si le geste était un peu dégueulasse, c'est que le mec, il a 10 mètres à droite, 10 mètres à gauche, et il dit non, j'ai pas fait exprès, je l'ai pas vu. Le mec, il va direct dessus, le pouce. Bon, bref. Mais voilà, erreur de jeunesse ou manque d'humilité, selon toi?
Les deux, j'ai envie de dire, sur le moment, les deux. Mais effectivement, faut pas en tenir rigueur. Je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts. Il est un petit peu passé pour un imbécile sur le coup. Par rapport à cette déclaration, c'est une erreur de jeunesse. Je pense qu'il ne faut pas en tenir rigueur. Et puis voilà, c'est rentré dans l'ordre assez vite. Et c'est tant mieux. Mais des fois, il y a des petits garde-fous comme ça qui font que des fois, ça permet de remettre les choses dans l'ordre. Quoi, toi, voilà.
Yann, Raph l'a annoncé, on va parler évidemment du RCT où il y a un ouvreur quand même, sur lequel tu dois porter un regard tout particulier, probablement empli de bienveillance. C'est Louis Carbonel qui évolue au poste que tu as eu avec le RCT. Quel regard tu portes sur son évolution? Et on a vraiment le sentiment que depuis cette saison, il a franchi encore un cap.
Ouais, c'est une évolution. Je le suis depuis qu'il est petit, depuis tout jeune, mais comme Romain d'ailleurs, parce que Romain, je l'ai vu net, toi, il jouait dans mon jardin avec mes enfants, donc c'est un peu pareil, c'est deux gosses que j'ai suivis un petit peu. C'est sincèrement, les deux, Je ne veux pas Jalibert dans le dos parce que je ne connais pas quand il était gamin, mais j'imagine que c'est pareil. C'est des petits génies du rugby. Hein. Sincèrement, on savait depuis longtemps que la progression allait faire, qu'on allait compter sur eux au plus haut niveau, quoi. Donc voilà, ben à Toulon, effectivement, Carbo, il continue son apprentissage. Il engorge de l'expérience. Il engrange. C'est important pour lui, pour eux, parce qu'en fait, c'est la multiplication des matchs et des situations qui vont faire, qui vont s'améliorer. Après, ils ont tous un truc commun quand même, c'est la soif de réussite et une ambition commune, quoi. L'ambition d'être le meilleur. Et ça, c'est bien, ça fait vachement avancer, quoi. Donc ça, c'est très, très bien. Après, le petit Carbo, il a aussi... c'est un joueur instinctif, un peu comme le petit Jalibert, tourné vers l'attaque. Donc aussi, pareil, il va falloir qu'il apprenne sur la sagesse, la tactique. Mais je pense qu'il le fait très bien à Toulon, parce que Toulon, c'est un club où si tu fais tomber un ballon, ça, ça n'a pas changé par contre, toi. Tu fais tomber un ballon derrière, tu te fais engueuler par les gros. Donc ça, ça ne changera pas. Donc si tu veux, cette rigueur-là, à Toulon, il va l'apprendre plus qu'ailleurs.
Toi, tu as commencé le rugby à Vienne et justement, tu as joué à Toulon dans ta jeunesse. Tu étais champion de France là-bas. Le surnom de petit Mozart, est-ce qu'on peut le refiler à Carbonel, même s'il se fera son propre surnom? Mais derrière tout ça, la question que je me pose, c'est comment tu te formes justement quand t'es Toulonnais? Est-ce que ce sont les coachs? Est-ce que ce sont toute la maturité des anciens? Il y a toute une émulation. Comment tu gardes aussi cette confiance? Comment tu arrives à garder ce talent et ce côté inné? Moi, je me souviens d'une action, justement, quand on a joué le Six Stations, où tu m'as foutu dans les tribunes avec un crochet, une croisée. Tu as gardé cet instinct-là. Comment on arrive à le garder, même à 70 ans? C'est sorti comme ça, pardon.
Non. Déjà, c'est ton histoire avec le rugby. Et c'est peut-être là où il y a une ressemblance avec le petit Carbo et le petit Romain Tamac. C'est que moi, j'avais un papa qui joue au rugby, qui est international de rugby, même s'il n'y a eu que deux sélections, mais quand même, avec une certaine idée du rugby, une certaine culture du rugby. Et avant lui, il y avait mon grand-père maternel qui était aussi rugbyman. Donc moi, si tu veux, j'étais dans la marmite rugby à fond. Et pas dans n'importe quel rugby, dans ce rugby de jeu, d'instinct, d'attaque. Donc finalement, moi, dès 4 ans, 5 ans, 6 ans, je faisais des passes à droite, à gauche, je regardais comment jouait mon père, je l'imitais. Donc y a cette culture rugby, finalement, qui te vient complètement naturellement, par passion. Et donc, finalement, tu te rends compte que les années passent, tu évolues en progressant, mais sur cette valeur-là, parce que quand tu rentres à la maison, tu échanges. Et moi, combien de fois je me suis pris la tête avec mon père, surtout aurais dû jouer comme ça, non comme ça, refaire les actions avec les verres, avec les assiettes, le machin, le truc, la fourchette, la course comme ci, comme ça. Et en fait, c'est tout con, mais t'apprends en faisant ça, quoi, et tu te mets dans des situations. Et j'imagine que ce soit Carbo, pour connaître les papas, que Alain Carbonel ou Émilien Tamac, j'imagine qu'il y a dû avoir des heures aussi dans la cuisine, après les entraînements ou après les matchs, à refaire les matchs et donc du coup à revivre ces situations et les faire progresser sans qu'ils le perçoivent ou sans qu'ils le veuillent même.
Juste, je vais confesser mon ignorance, Yann, mais est-ce que tu sais comment est né ce surnom de petit Mozart, l'origine de ce surnom?
Alors, je crois, parce que comme c'est loin,
c'est qu'à 70 ans.
Je crois que c'était en tournée en 94 en Nouvelle-Zélande, justement. On était en conférence de presse. Je ne sais pas si c'est pas Laurent Seigne et Lolo Cabane qui avaient dit aux journalistes qui m'appelaient comme ça. Et du coup, ça avait fait derrière boule de neige et après, c'est resté. Et ouais, ça m'a collé. Alors, Califano, je pensais passer par là en remettant des couches, toi. et en fait, ouais, c'est toujours resté. Et même aujourd'hui, j'ai des potes, même des potes super proches, comme Cédric Desbrosses ou autres, qui m'appellent Mozart, quoi. Et c'est rigolo, toi. Donc, bon.
Il y a pire comme surnom. Hein.
Ah ben, ça aurait été Logoré. Je crois comment j'aurais tout fait pour que.
Philippe, si tu nous entends, t'es le bienvenu, évidemment, aussi. Oui, vas-y, Raph, pardon.
Non, mais après, c'était de savoir, mais j'en ai un petit peu parlé il y a 5 minutes, c'est de savoir pourquoi pendant des années on n'a pas eu, et pourtant, je pense à Trinduc, je pense à tous ces numéros 10 qui sont passés sur ces 10 dernières années, pourquoi on n'a pas pu, ou on n'a pas eu justement des joueurs de la trempe de cette. Alors, c'est certes une question de génération, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, Jalibert, Ntamack, Carbonel, on peut penser aussi à Astoy, qui est à Pau, et aussi à Joré Segond au stade français. Pourquoi pendant 10 ans on n'a pas eu justement de grands numéros 10? Et pourtant, on avait le vivier, enfin, on avait, mais...
Ben non, pas tant que ça, parce que la période Camille Lopez, par exemple, qui a fait une belle carrière, Camille, toi, même avec l'équipe de France, En fait, il n'y avait quasiment pas de concurrence. Si tu regardes bien cette période-là, et c'est pour ça que Galtier bénéficie aussi des GIFs, en fait, des règles des GIFs, qui finalement, au fil des ans, fait que tu as plus en plus de joueurs français qui peuvent être sélectionnables. Ça, c'est super important. Parce qu'au poste de numéro 10, pendant longtemps, on n'avait pas de Français. En fait, si Camille Lopez se blessait, tu faisais jouer qui ? Tu n'avais quasi personne en face, quoi. Donc sincèrement, il manquait de matière. Donc, c'est aussi dû à ça, je pense.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, j'ai le souvenir, voilà, on avait des Brock James, des Dan Carter. Enfin, dans tous les clubs, on avait un ouvreur étranger. Il faut rendre hommage, pour le coup, à la Ligue nationale de rugby. Parce que a fait jaser ces histoires de gifs, parce qu'évidemment, ça a fait grimper aussi les commissions des agents, soit dit en passant, les salaires des joueurs moyens, entre guillemets, français. Mais ça a aussi une vertu, c'est qu'aujourd'hui, on a un réservoir en équipe de France bien plus grande. Yann, tu me dis si je me trompe, je vais reprendre de ce que Raphaël disait tout à l'heure, hein, 3 Brennus, donc avec Toulouse en 92. Avec Toulon, pardon, en 92, Toulouse 99 et 2001, un titre de champion d'Europe en 2003, 20 sélections entre 94 et 2005. Et quand on t'entend parler de rugby, quand on t'entend parler de jeu, quand on t'entend parler de… On se dit, mais pourquoi ce mec, il n'est pas devenu entraîneur ?
En fait, je vais vous expliquer, c'est très clair. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai terminé ma carrière, j'ai divorcé juste avant. J'avais des enfants qui étaient en petit âge, toi, à ce moment-là. Et donc, si t'es entraîneur, automatiquement, t'as plus un week-end de libre. Et moi, je voyais mes enfants le week-end. Et donc, ma priorité, c'était de passer du temps avec eux. Donc, j'ai eu des sollicitations pendant pas mal d'années après ma carrière. Mais j'ai toujours refusé tout de suite ces sollicitations-là parce que ma priorité, c'était de voir grandir mes enfants et de passer du moment avec eux. Bon, maintenant, ils ont 21 et 23, ils sont grands, je pourrais le faire maintenant. Et maintenant, si tu veux, il y a un truc qui me refroidit. Alors, moi, du coup, maintenant, on est d'accord, j'ai moins de sollicitations aussi. mais même si j'en avais la volonté, j'ai plein de copains, parce que tu as vu tous les coachs d'aujourd'hui du top 14, c'est que des copains de ma génération, tous des copains. Ils ne me donnent pas envie, parce que je trouve qu'ils subissent une pression énorme. Je vois les mecs rarement sourire, souvent en faisant la gueule, en étant stressés. Quand ils me parlent de leur boulot, ils se lèvent à 5 du mat, ils finissent à 21h tous les jours, ils n'ont pas de vacances, ils sont comme des dingues, ils pensent qu'à ça. Ils sont dans un microcosme de rugby qui fait que tu n'es plus ouvert du tout sur la vie, sur les voyages, sur le… Et moi, sincèrement, j'ai le rugby est ma passion, mais j'ai d'autres centres d'intérêt, toi. Et j'ai envie d'être heureux dans la vie. Et j'ai l'impression que ces mecs-là sont 10 fois plus payés que moi, on est d'accord. Mais par contre, ils vivent un stress. Enfin, j'ai pas envie d'avoir cette vie-là, de tension extrême. Ils me donnent pas envie en les voyant, quoi.
Mais justement, par rapport à ce que tu dis, Yann, une petite réaction, et je laisserai Raph conclure, mais est-ce que c'est… Ces métiers-là aujourd'hui permettent des carrières aussi longues que par le passé. Guinovès a fait 20 ans au Stade Toulousain. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un entraîneur de top 14 peut faire 20 ans avec justement cette pression, ce stress permanent, quand on voit en plus la valse des entraîneurs dans certains clubs, est-ce que c'est encore possible ?
Ouais, je pense que oui. Je pense que oui parce que c'est leur drogue. Aujourd'hui, pour moi, je les sens drogués de ce truc-là. Et je peux comprendre parce que ça provoque une certaine adrénaline, toi, quand même. Donc, il y a un côté passionnant pour ça. Donc, je pense qu'ils peuvent tenir. Après, dans ce métier, toi, autant je parle de la pression, c'est tous les côtés négatifs. Après, moi, c'est vrai qu'il y a un truc que j'aurais adoré, c'est la transmission. La transmission du rugby, de ce détail du rugby, de ta course, ton machin, toi, en fait, toute la tactique du rugby, moi, ça me passionne. Je ne loupe pas un match, hein, je suis vraiment un vrai passionné, moi, hein, je regarde tous les matchs. Ça, les relations humaines. C'est ce qui manque le plus en vrai hein, quand tu arrêtes le rugby. Hein. Le vestiaire, le fait que voilà, tu discutes avec les mecs, tu n'as pas le même message envers l'un qu'avec l'autre parce qu'il ne réfléchit pas pareil, il a d'autres perceptions du rugby, de sa vie. Toute cette richesse-là, ça m'aurait beaucoup plu effectivement. Mais bon, ben voilà, après, je me suis consacré à d'autres trucs, toujours dans le milieu du rugby parce que quand c'est ta passion, tu te dis que tu feras toujours un truc mieux quand tu aimes le faire. Quoi. Mais voilà, bon, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je n'ai pas été entraîneur, même si cette question m'est revenue beaucoup pendant ma carrière, enfin, pendant mon après-carrière plutôt, parce qu'effectivement, j'ai une certaine vision du rugby. De par mon poste de numéro 10, j'avais le côté analytique du jeu, à vouloir savoir et comprendre le pourquoi du comment. Donc effectivement, cette transmission m'aurait bien plu. Ouais.
En d'autres circonstances, de toute façon, tu aurais basculé, Yann.
Si j'avais été au quotidien avec mes enfants, c'était pas impossible. Ouais.
Ouais. Yann, avant de conclure, même pour conclure, juste, voilà, on va se lancer dans un petit jeu de pronostics. Autant te dire que ça fait, je pense, la quatrième année que je fais Poulain Raffut, et à chaque fois que j'ai fait des pronostics, je les ai tous foirés, mais bon, tu es un peu plus spécialiste que moi, que tu suis tous les matchs. Moi aussi, je le dis, je les suis, tu vois, pour l'actualité, pour quand même savoir de quoi je parle. Les Bleus vont-ils faire le grand chelem? Et oui, non, voilà, pas de réponse de Normand, quoi.
Il y a le cœur qui dit oui, mais je me dis que ça pourrait nous faire du bien. Sincèrement, j'en sais rien. Après, je me dis que ça pourrait nous faire du bien. Non, mais c'est vrai, c'est tellement dur à dire. Ça pourrait nous faire du bien de taper un petit peu dans la marche. Parce que cette équipe a besoin aussi de travailler un petit peu dans le dur de temps en temps, je pense. Donc, on sera attendu. Peut-être, est-ce qu'on a cette maturité pour, même en enchaînant des bons matchs, ne plus avoir fait est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas prendre la grosse tête, ou en tous les cas, ne pas avoir suffisamment peur pour se transcender? Et c'est ce qui peut, ça nous est arrivé en Écosse, un petit peu. Peut-être que ça peut nous arriver de nouveau, parce que là, on n'est que sur des louanges, et peut-être que ça peut nous arriver. Donc, j'ai envie de te dire qu'on peut. Je mettrais France gagnante avec un match perdu, pas grand chelem.
D'accord. Ben, vu que vous ne me posez pas la question, moi, je vais mettre grand chelem. De toute façon, c'est mon émission, c'est je fais ce que je veux.
J'adorerais. Hein.
Et pour moi, je pense que pour le moral des troupes et aussi des Français qui reprennent goût justement à la victoire avec l'équipe de France, malheureusement qu'on ne peut pas avoir dans les stades, ça ferait du bien aussi au moral, et tu le sais, dans un contexte sanitaire particulier, ça ferait du bien, voilà, d'avoir. Et ils ont quand même eu, enfin, les deux échecs, tu vois, face à la, alors même si on a dit que c'était l'équipe B face à l'Angleterre, ils ont eu la baraque quand même avec dans les arrêts de jeu, ils ont perdu, enfin, le match contre l'Écosse.
C'est même pas l'Angleterre. Pour moi, l'Angleterre, c'est une victoire.
Ah, c'est une victoire, ouais, je suis d'accord. Et moi, je pense comme Yann, je pense qu'on ne fera pas le grand chelem, qu'on gagnera le tournoi grâce à une victoire en Angleterre. Je ne sais pas où on perdra. Est-ce que ce sera en Irlande? Est-ce que ce sera peut-être un match à la maison? Je ne sais pas. Mais je suis convaincu que le match contre l'Angleterre, qui, sur le papier, reste une défaite, malheureusement, même si pour beaucoup d'observateurs, c'est une victoire, ce sera un vrai levier pour aller chercher une victoire à Twickenham.
Messieurs, les paris sont lancés. En tout cas, au sortir de ce Six Nations, je ne manquerai pas de vous envoyer un petit texto, n'est-ce pas,
pour, voilà, pour revenir un petit peu sur vos pronostics. J'espère que
tu auras raison. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Yann, merci beaucoup. Ravi de t'avoir eu. Voilà, on a pu parler de l'association. Je pense que ça, c'était vraiment, vraiment important de parler de ce poste de numéro 10. Tu reviens, bien sûr, comme le dit Cali à chaque fois, tu es bienvenu, tu es ici chez toi. Voilà. Et en tout cas, c'était bien cool de t'avoir. J'avais à cœur justement de parler de l'asso et de revenir avec toi sur cette équipe de France. Et Arnaud, merci beaucoup aussi.
Ouais, merci. Moi, je remercie Yann aussi parce que son discours est important. Son propos est important. Tout à l'heure, il l'a dit très modestement qu'il ne pousse pas beaucoup de coups de gueule, Yann. C'est quelqu'un de plutôt discret. Mais quand il prend la parole, il l'a dit, finalement, ça a fait sens et ça a pesé dans la suite, et je crois que c'est bien, contrairement à d'autres qui toutes les 5 minutes poussent des coups de gueule sans aucun effet, de temps en temps d'avoir des gens mesurés, sincères, et forcément ça a plus de poids, et donc merci pour ce propos et le partage de ces belles valeurs, Yann.
Merci à vous deux, c'était un moment très sympa, merci d'avoir mis en lumière à la fois le côté business avec mon Water Rugby Sud de France, mon côté associatif avec Rugby French Fair, parce qu'on en a besoin, c'est cool. Et puis merci beaucoup pour cet échange qui a été super sympa. Voilà.
Liberté d'expression. En tout cas, c'était bien cool de t'avoir. Nous, on se retrouve l'année prochaine prochaine pour un nouvel épisode de Poulain Raffut. Et d'ici là, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore, Arnaud. Merci, Yann. Merci, Adrien aussi, qui était à la régie. À la semaine prochaine. Salut. Bonne soirée.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.